RCF.
La question de l'intériorité traverse les siècles, mais qu'est-ce qui anime l'homme au plus profond de son être ? Eh bien, cette semaine, c'est de l'âme dont il sera question. Avoir des états d'âme, accepter la mort dans l'âme, trouver l'âme sœur, avoir charge d'âme, eh bien les expressions sont nombreuses dans la langue française. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'âme ? Eh bien ça fait des siècles que la pensée chrétienne s'attelle à le comprendre. Parce que définir l'âme, c'est dire quelque chose de la nature de l'homme, de son attirance pour Dieu et de sa conversion vers lui.
Halte spirituelle, une émission proposée par Madeleine Vatel.
Et c'est une question qui vous a intéressé, Père Jean-Baptiste Masson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, vous êtes curé de Villeneuve-d'Ascq. Vous avez animé des journées d'études à la faculté théologique de Lille à propos de l'âme, justement. Alors, Père Jean-Baptiste Masson, l'esprit, la conscience, le cerveau, le souffle divin, c'est un peu un tâtonnement pour définir l'âme. On ne sait pas toujours très bien d'ailleurs faire la différence. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'âme ?
Alors, le mot âme, c'est ce qui est animé. Alors, quand on va le rechercher d'abord dans la Bible, on voit que le vocabulaire dans la Bible n'est pas très précis, mais c'est d'abord la respiration. Donc, l'âme désigne ce qui est vivant. Parce que quand quelqu'un est vivant, il respire, et quand il ne respire plus, il est mort. Donc, son âme n'est plus là. Et donc, cette notion d'âme, c'est simplement renvoyer à ce qui fait que l'âme est vivant, et on dit dans la Bible, tout ce qui respire loue le Seigneur. Et donc, il y a cette dimension aussi qui est très proche, derrière la respiration, d'une relation au Dieu vivant. Et donc, quand on va parler de l'âme, on ne va pas parler simplement de l'âme humaine, mais on va parler de tout ce qui, dans la nature, dans la création, a reçu sa vie de Dieu et est vivant en face de Dieu. L'être humain, il a une âme particulière parce qu'il est créé à l'image de Dieu, et il reçoit aussi, dans le récit de la création, il reçoit dans sa respiration, donc on est toujours sur l'image de la respiration, il reçoit un souffle particulier de Dieu. Et donc dans la Genèse, on voit que Dieu souffle, insuffle son souffle propre à l'homme. Et donc dans la nature, l'âme est là dans tous les êtres, dans les animaux, dans ce qui est vivant, dans les végétaux. Mais dans l'être humain, il y a une respiration particulière qui vient de Dieu et qui fait que c'est la vie, l'âme qui est dans l'homme a cette relation toute particulière en face de Dieu.
Mais alors, qu'est-ce que vous diriez de ceux qui ne croient pas en Dieu ? Est-ce qu'ils sont dépourvus d'une âme ?
Alors, en fait, effectivement, c'est très intéressant, c'est que quand on va parler de l'existence de l'âme, on est renvoyé à Dieu. Et donc, la question de l'âme, elle a du sens dans la foi et en face de Dieu. Et donc, quand on ne croit pas en Dieu, la question de l'âme se pose pas, mais reste la question de la mort. C'est-à-dire que ne croyant pas en Dieu, si on ne croit pas en l'âme, est-ce qu'il reste quelque chose quand même de l'homme après sa mort, et comment l'être humain peut vivre au-delà de son corps ? On est obligé de poser un principe quand même, si on veut tenir une survie de quelque chose de l'homme au-delà de son existence physique, à ce moment-là, on va poser l'existence d'une âme sans forcément la connecter à Dieu, mais ça devient une réflexion philosophique difficile. Dans la foi chrétienne, l'âme humaine, elle est cette existence de l'homme en Dieu, au-delà de son existence physique. Donc la question philosophique, en quelque sorte, est résolue, parce que en dehors de Dieu, soit on vit uniquement corporellement, et à ce moment-là, la mort, c'est la fin de tout, ou alors il y a quelque chose qui existe, mais on a du mal à comprendre comment on peut continuer à exister si on ne reçoit pas cette vie de Dieu. Et donc l'âme, dans la foi chrétienne, elle est dans cette relation vraiment au divin.
Alors la question, par exemple, vous semblez dire que pour les chrétiens, au fond, elle ne se pose pas. À partir du moment où il y a respiration, il y a âme, il y a relation à Dieu. La controverse de Valladolid, qui est celle des Espagnols qui arrivent, et va se poser la question de savoir si ces Indiens ont une âme, n'en ont pas, ou en tout cas s'ils sont bien comme nous. On retrouve un peu cette idée de c'est l'âme qui fait l'homme, et c'est l'âme qui fait la créature de Dieu.
Oui, dans la controverse de Valladolid, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un conflit entre ceux qui voudraient utiliser ces êtres comme une marchandise, donc c'est les marchands, c'est tout le système de l'empire espagnol qui se développe, qui a besoin de personnel, et les missionnaires, en fait, qui leur annoncent l'évangile, qui les baptisent, qui reconnaissent leurs droits, et c'est un frein à l'exploitation commerciale. Et donc, il y a cette lutte en disant, si on leur reconnaît une âme, il faut leur reconnaître des droits, il faut leur reconnaître une dignité, une liberté. Mais donc, la question, c'est est-ce qu'ils ont cette relation à Dieu ? Est-ce qu'ils sont catéchisables ? Est-ce qu'ils sont baptisables ? Est-ce qu'il faut les respecter comme des frères et sœurs dans le Christ ? Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas les utiliser comme une marchandise. Et donc, il va y avoir cette lutte très forte. Mais donc, la question, c'est pas en soi, est-ce qu'ils ont une âme ? Est-ce que leur âme est capable de Dieu ? Est-ce qu'ils ont cette capacité à accueillir la révélation, le Christ ressuscité, à être sauvés ? Est-ce que le Christ est mort et ressuscité pour eux aussi ? À ce moment-là, on ne peut plus les traiter comme des animaux.
Et donc, ça changera tout.
Et ça changera tout.
Si on pousse la réflexion sur cette présence de l'âme en l'homme, on le disait tout à l'heure, en fait, si on ne pense pas que c'est le souffle de Dieu, alors qu'est-ce qui reste ? On arrive presque plus sur une question matérielle, sur une question presque mécanique, en fait, du fonctionnement de l'homme.
Effectivement, on fonctionne, y compris dans notre relation à Dieu, en lien avec ce qu'on est physiquement. Donc, dans la relation à Dieu, il y a la question des sens, de voir, de toucher. Et donc, les pensées qu'on a dans notre esprit, y compris sur Dieu, viennent de notre corps. Et donc, il y a ce continuum complet entre ce que l'homme est physiquement dans son fonctionnement biologique et la façon dont il peut exprimer à la fin une prière et vivre une relation à Dieu. Et donc, la question de l'âme, on ne va pas la rechercher comme quelque chose qui existerait dans l'homme indépendamment ou en plus de son corps. Et donc, pour ça, pour comprendre un peu cette relation et la difficulté à laquelle est affrontée la pensée chrétienne, il faut revoir la question du dualisme chez Platon. C'est-à-dire que lui, il dit il y a une nature humaine, corporelle, mortelle, donc c'est notre corps, et il y a des pensées qui, elles, sont éternelles, spirituelles, et entre les deux, c'est deux natures totalement différentes, et c'est impossible de penser que ce soit la même chose. Et donc, il y a un corps et il y a une âme, c'est le dualisme, et donc, il n'y a pas ce continuum. À la fin, quand l'homme meurt, son âme est libérée, elle continue de vivre dans le divin, dans le monde des idées, dans ce qui est spirituel, ce qui appartient à sa nature. Et donc, le corps est la prison, dit Platon, de l'âme. Et ça, c'est pas du tout la pensée chrétienne. Donc, la pensée chrétienne, elle va plutôt se développer. Elle va trouver plutôt chez Aristote son fond philosophique. C'est-à-dire qu'il y a un continuum entre ce qui est corporel, biologique, ce qui est sensitif, donc avec le fonctionnement tel qu'on peut le voir chez les animaux aussi, de voir, de toucher, y compris d'éprouver des émotions. Et puis, ce qui va être les facultés plus supérieures, de la rationalité, des pensées, et en fait les trois degrés, corporel, sensitif et spirituel, s'enchaînent, et ça c'est l'âme. C'est-à-dire que...
C'est-à-dire les trois sont l'âme ?
Voilà, c'est ça, c'est qu'on a, avec la pensée de Platon, on a l'âme qui tombe dans le corps, et donc on va chercher l'âme quelque part dans le corps et elle va s'en libérer. Mais la pensée chrétienne, elle se retrouve plus sur le fond aristotélicien, où en fait l'âme, c'est ce qui englobe le corps, la sensibilité, les facultés sensitives, et puis les facultés plus supérieures de la pensée. Et donc, c'est plutôt le corps qui est dans l'âme que l'âme dans le corps. Voilà. Et donc, quand on arrive à mieux comprendre ça, on comprend ce que la pensée chrétienne veut dire à travers l'âme, qui est la manière dont l'homme se situe, l'être humain se situe entre les réalités physiques et le divin. Et...
Mais là, vous nous parlez de ce que dit Aristote. Aristote, bon, donc, n'est pas d'accord avec Platon. Mais Aristote, c'est un philosophe, c'est pas saint Aristote. Donc, comment la pensée chrétienne s'est inspirée ou s'est greffée de cette pensée qui préexistait ?
Dans un itinéraire spirituel. Et de fait, alors on a parlé des fois, on a même mis Aristote sur les cathédrales au Moyen-Âge. Il y a chez Aristote un fond philosophique qui va bien, avec pas à 100%, mais qui permet bien d'exprimer la pensée chrétienne. Mais donc le fond, ça reste le fond biblique. L'homme et la femme créés à l'image de Dieu, et donc qui vivent dans cette relation, qui sont au sommet de la création, donc qui font bien partie de ce corporel de la création, et qui, au sommet de la création, ont cette capacité à louer Dieu, à penser Dieu. Donc on retrouve bien ce continuum physique et spirituel, et donc il n'y a pas de division. Donc là, Aristote, on est à l'aise avec lui. Voilà. Mais après, dans la pensée chrétienne, c'est surtout l'itinéraire de l'homme vers Dieu.
On y reviendra dans la prochaine émission. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lille. Merci à vous.